VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Tatiana Mosso en direct du studio 9 de la Voix de l'Amérique. Il est 17h30 en temps universel et vous écoutez Le Monde aujourd'hui. Tout de suite, les titres de ce lundi 8 mai 2017. Côte d'Ivoire, plusieurs centaines d'anciens rebelles ont bloqué pendant plusieurs heures l'accès sud de Boaké. Pour l'heure, les négociations ont été suspendues avec les autorités. Au Burkina Faso, après un second renvoi, le procès du dernier gouvernement de Blaise Compaoré a repris devant la Haute Cour de justice, mais les avocats de la défense ont quitté la salle d'audience. Et puis en France, Emmanuel Macron, élu avec 66% des voix, se lance dans la bataille cruciale des législatives du mois prochain. Il a besoin d'une majorité claire à l'Assemblée. Et puis ne manquez pas dans cette édition votre rendez-vous avec les sports et la Minute Éco. Nous ouvrons ce journal avec la Côte d'Ivoire. L'entrée sud de la ville de Boaké a été fermée tôt lundi par un groupe d'ex-combattants démobilisés issus de l'ex-rébellion armée de Côte d'Ivoire après plusieurs heures de manifestation. Le corridor a été réouvert en début d'après-midi et la circulation a repris après des négociations entre les autorités préfectorales et les ex-combattants. Les détails avec notre correspondante à Abidjan, Narita Namasté.
Les négociations entre les ex-combattants et les autorités du corps préfectoral de Boaké ont été suspendues à la mi-journée après plusieurs heures de discussion. Selon nos informations, les discussions devraient reprendre dans les jours qui viennent. Plusieurs centaines d'anciens rebelles démobilisés ont bloqué le corridor sud de Boaké dans le centre du pays. Ces ex-combattants réclament des paiements de primes au Comores de 12 millions de francs CFA et des aérés de primes de grade de caporal de 2007 à 2011. Il faut rappeler que ces ex-combattants ne font plus partie de l'effectif des forces armées de Côte d'Ivoire. Des négociations entre les autorités préfectorales ont débuté peu après 11h GMT à Boaké, qui est la deuxième grande ville du pays. Selon nos informations, les discussions ont été suspendues et devraient reprendre dans les jours à venir. Il faut aussi noter que le mouvement avait gagné la veto dînée dans le nord-ouest du pays. En janvier, le pays a été secoué par une vague de contestations militaires et civiles où le gouvernement ivoirien avait promis reverser la somme de 12 millions de francs CFA à quelques 8 500 mutins issus de l'ex-rébellion ivoirienne, une mutinerie qui avait enregistré au moins 2 morts dans ce pays. Narita Namasté, à Abidjan, VOA Afrique.
Et en Côte d'Ivoire toujours, les organisations professionnelles ont critiqué ce lundi une nouvelle loi sur la presse qui a été adoptée en commission et devrait être votée prochainement par l'Assemblée nationale ivoirienne. Le nouveau texte adopté en commission prévoit un emprisonnement d'un à cinq ans. Quiconque par voie de presse incite à la xénophobie, à la rébellion ou porte atteinte à l'intégrité du territoire national. Une dizaine d'organisations professionnelles dont l'Union des journalistes de Côte d'Ivoire ont marqué leur ferme opposition à ce texte qualifié de liberticide, répressif et totalement aux antipodes de la modernité. Au Burkina voisin, le procès des ministres du dernier gouvernement de Blaise Compaoré a repris ce matin à Ouagadougou. Devant la haute cour, la défense a claqué la porte du tribunal à Bagassi Koura.
La quinzaine d'avocats défendant les 32 ministres du dernier gouvernement du président Blaise Compaoré ont quitté le tribunal ce lundi. Ils sont jugés devant la Haute Cour de justice pour leur implication présumée dans la répression de l'insurrection populaire d'octobre 2014. Les avocats rejettent la Haute Cour, arguant que ces verdicts ne peuvent faire l'objet d'aucun appel alors que toute décision de justice doit pouvoir être contestée au moins une fois. Créée en 1995 sous le régime de Blaise Compaoré, dont elle s'apprête à juger le dernier gouvernement, la Haute Cour de justice est restée inactive jusque-là. Elle a seule juridiction habilitée à juger le chef de l'État et des ministres pour des faits commis dans l'exercice de leurs fonctions. Plusieurs spectateurs ont applaudi les avocats alors qu'ils quittaient la salle. Le président a suspendu l'audience qui devrait reprendre le 15 mai prochain.
En RDC, deux soldats congolais ont été tués lundi dans une attaque attribuée aux rebelles des forces démocratiques de la libération du Rwanda dans la province du Nord Kivu et à l'est de la RDC. Les FDLR sont des rebelles hutu-rwandais opposés au régime de Kigali. Ils sont restés très actifs dans l'est du pays depuis la fin du génocide au Rwanda. L'ex-otage français libéré samedi au Soudan après son enlèvement en mars au Tchad est arrivé lundi à N'Djamena alors que les autorités tchadiennes affirment que ses quatre ravisseurs ont été arrêtés. Chemise bleu clair rasée de près, paraissant en bonne santé, Thierry Frézier, 60 ans, a été accueilli à sa descente d'avion en provenance de Khartoum par le ministre tchadien de la Sécurité, ainsi que les ambassadeurs de France et du Soudan au Tchad. En Somalie, au moins 6 personnes ont été tuées et une dizaine blessées dans un attentat à la voiture piégée à Mogadiscio. Le véhicule a explosé à proximité immédiate d'un café italien situé dans une artère très fréquentée du centre-ville et qui mène au palais présidentiel. Le ministre de l'Intérieur égyptien a annoncé lundi avoir tué 8 terroristes appartenant à des groupuscules planifiant des attaques contre des institutions publiques. Les 8 hommes ont été tués dans un échange de tirs avec la police dans le désert, dans le sud du pays, selon un communiqué du ministère de l'Intérieur. Et puis au moins 11 migrants sont morts et plus de 230 autres sont portés disparus après 2 naufrages au large de la Libye. C'est ce qu'ont rapporté lundi la marine libyenne et les organisations internationales citant des survivants. Les corps de 10 femmes et d'un enfant ont été découverts lundi sur la plage de Ziouia à 50 km à l'ouest de Tripoli, selon un responsable du Croissant Rouge libyen qui n'a pas donné davantage de détails. On ignorait notamment si ces personnes étaient à bord d'une embarcation qui a récemment chaviré au large de Zawiya.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dans l'actualité internationale, après avoir essuyé en février et mars de retentissantes défaites judiciaires la France, le centriste pro-européen Emmanuel Macron a remporté une large victoire hier à la présidentielle avec 66,10% des voix. La passation de pouvoir avec François Hollande aura lieu dimanche 14 mai. Les élections législatives sont prévues le mois prochain et c'est un défi pour le président élu, Anastasie Tudiège.
Pour gouverner, le président Emmanuel Macron, qui va prêter serment le 14 de ce mois, aura besoin d'une majorité à l'Assemblée nationale. Il a fondé il y a un peu plus d'un an le mouvement En Marche, qui se veut différent des partis politiques traditionnels. Des personnalités de gauche et de droite comptent se présenter aux législatives des 11 et 18 juin sous l'étiquette majorité présidentielle, une situation inédite car des personnalités aux sensibilités parfois disparates vont devoir cohabiter. Dans les prochains jours, Emmanuel Macron doit dévoiler le nom de son Premier ministre et la composition du futur gouvernement avant de chercher à obtenir une majorité aux législatives du mois prochain.
Dans l'actualité internationale, toujours, le gouvernement afghan et l'armée américaine ont confirmé le 7 mai au soir la mort, le 27 avril, d'Abdul Hassib, chef de la branche locale de Daesh, lors d'une opération conjointe dans l'est de l'Afghanistan. Salwa Jafari.
Mohamed Ramdanish, porte-parole adjoint du ministère afghan de la Défense, l'a confirmé. Abdul Hassib, chef de la branche locale du groupe djihadiste, a trouvé la mort lors d'une opération conjointe dans le Nangarh, dans l'est du pays.
Beaucoup de membres du groupe de l'État islamique ont été tués par le commandement de la coalition et l'armée nationale. Abdul Hassib, le chef de ce groupe terroriste, était également parmi eux.
Il avait pris la direction du groupe en juillet 2016 à la mort de son prédécesseur, Hafiz Saïd, tué dans un bombardement américain. Le Pentagone a affirmé que plusieurs autres responsables de haut rang de Daesh ont également été tués, ainsi que 35 combattants. 2 soldats américains ont également trouvé la mort dans l'opération. L'armée américaine affirme que plus de 500 combattants ont été tués depuis début mars.
Et puis des pays occidentaux au Conseil de sécurité de l'ONU ont exprimé lundi des réserves à propos d'un projet de résolution de la Russie sur les zones de désescalade en Syrie pour soutenir l'accord en ce sens signé entre Moscou, Téhéran et Ankara. Le texte de Moscou appelle tous les États membres à contribuer de bonne foi à la mise en place de l'accord sur la création de zones de désescalade en Syrie. L'accord d'Astana sur les zones de désescalade signé le 4 mai par la Russie et l'Iran, alliés au régime de Bachar al-Assad et la Turquie, soutient de la rébellion figure en annexe du projet de résolution. Et puis les États-Unis examinent attentivement une proposition de la Russie pour rétablir des zones de désescalade. Je vous le disais, la proposition a été signée jeudi par la Russie, l'Iran et les alliés de Bachar al-Assad. Washington l'a accueilli avec beaucoup de réserves, se disant sceptique sur le rôle de l'Iran pour la garantir, tout en espérant qu'elle ouvrirait la voie à un accord plus global. Voilà pour le journal. Vous suivez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. C'est l'heure de votre rendez-vous avec l'actualité économique en Afrique. La Minute Éco est présentée cette semaine par Jacques Aristide.
Le Fonds monétaire international vient d'approuver un programme de près de 241 millions de dollars au Togo afin d'aider le pays à redresser ses finances publiques. Un premier prêt de 34,5 millions a été immédiatement débloqué en faveur des autorités de Lomé. Le versement des autres tranches de ce programme, étalé sur 3 ans, sera conditionné à l'application d'une série de réformes économiques. Plusieurs pays d'Afrique francophone ont récemment fait appel au FMI, notamment pour faire face à l'impact de la chute des cours des matières premières sur fond de rumeurs de dévaluation du franc CFA. Le Parlement égyptien a approuvé une loi sur les investissements qui prévoit notamment de faciliter les démarches des entreprises au moment où les autorités veulent attirer les investisseurs étrangers pour relancer une économie en crise. L'Égypte a connu une forte chute des revenus du tourisme. Le texte prévoit des exemptions fiscales pouvant aller jusqu'à 50% pour les investissements dans les régions les plus défavorisées. Au Mozambique, les habitants de Palma, un village de pêcheurs, réclament que le projet gazier du fleuve Rovuma démarre le plus tôt en 2010. Des réserves estimées à 5000 milliards de mètres cubes de gaz naturel ont été découvertes dans cette partie nord du pays, les plus riches découvertes sur la planète depuis longtemps, pouvant hisser l'un des pays les plus pauvres du continent africain au rang de 3e producteur mondial de gaz naturel liquéfié, annoncé pour 2016. Les exportations ont été reportées à 2022 ou 2023 en raison de la chute des cours des hydrocarbures.
Et on retrouve tout de suite les sports avec Nicolas Pinault. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Tatiana, bonsoir à tous.
Premier comité exécutif de la Confédération africaine de football de l'ère Armade.
Le nouveau président malgache de la CAF est à Bahreïn avec les dirigeants de la Confédération africaine au menu des discussions qui se sont ouvertes ce lundi. Comment transformer la CAF pour les 4 prochaines années? La CAF va aussi se pencher sur la plainte déposée en Égypte contre le contrat des droits TV et marketing qui avait été passé avec le groupe Lagardère, on s'en souvient, sous la présidence d'Issa Hayatou. Affaire à suivre.
Jeudi, ce sera le congrès de la FIFA, toujours à Bahreïn.
Le président de la FIFA, Gianni Infantino, affirme que les finances de l'instance internationale de football sont extrêmement solides et ce, malgré des pertes de 369 millions de dollars. Déclaration faite au cours d'un discours prononcé devant le congrès de la Confédération Asiatique de Football, toujours à Bahreïn. La FIFA avait indiqué auparavant que ses résultats pourraient se dégrader au cours de l'année, mais rebondir en 2018 pour atteindre un bénéfice d'1 milliard de dollars, grâce notamment aux droits télé de la prochaine Coupe du Monde en Russie.
Demain, demi-finale, retour de la Ligue des Champions, mission impossible pour Monaco ?
La Juventus qui ne craque jamais contre les clubs français, la Juventus qui ne prend pas de but et qui n'a plus perdu à Turin depuis 20 mois. Seul un colossal exploit demain enverrait Monaco en finale de la Ligue des Champions. Ça va être dur, le coup d'envoi 18h45, temps universel. On se souvient qu'à l'aller, les Italiens l'avaient emporté 2-0 au Stade Louis II.
Football toujours, mais de sable avec le mondial de beach soccer remporté par le Brésil.
Exactement, et les Brésiliens ont été sans pitié face à Tahiti. Victoire 6-0, le Brésil qui remporte ainsi sa 5e Coupe du Monde de la discipline. Pour la petite finale, l'Iran termine 3e grâce à son succès 5-3 devant l'Italie.
Et enfin NBA, championnat de basket nord-américain.
Comme en 2016, les Cavaliers ont négocié leurs 2 premiers tours des playoffs sans perdre un seul match. Ce n'était pas une formalité, il a fallu aller la chercher cette qualification, assure King James, LeBron James, le joueur de Cleveland, après la 4e victoire de son équipe sur le parquet des Raptors de Toronto 109 à 102. Les Cavaliers qui vont pouvoir tranquillement attendre leurs prochains adversaires, les Celtics de Boston ou les Wizards de Washington. Les deux équipes sont à 2 victoires chacune. Le duel entre San Antonio et Houston est aussi très serré, 2 victoires chacune, après la nette victoire des Houston Rockets dans leur salle, 125 à 104.
Merci Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui, de retour avec Tatiana Mosso. Place à nos dossiers du jour et on prend la direction de la Côte d'Ivoire, où une centaine d'anciens rebelles démobilisés ont bloqué ce matin l'accès sud de Boaké. Ils réclament leur part du gâteau. Après plusieurs mutineries, le gouvernement avait cédé et a satisfait en partie les revendications de primes de quelques 8500 anciens rebelles intégrés dans l'armée. Les démobilisés, à leur tour, veulent aussi leur part. Solange Niamoulissa a joint Dr Arthur Banga, enseignant à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan.
Depuis la fin de la guerre, il y a plusieurs projets de DDR, de mobilisation, désarmement et réinsertion qui ont été mis en place. Certains qui ne sont pas satisfaits de ce qu'ils ont eu. Et deuxième chose, par rapport aux revendications des mutins du début de l'année, ceux qui ont quitté l'armée se sont un peu frustrés de voir que les anciens avec qui ils ont combattu ont eu des primes de près de plus de 5 millions. En plus, sont encore payés tous les mois par l'État de Côte d'Ivoire, alors qu'eux, qui ont combattu comme eux dans la première partie de la guerre, ne sont pas pris en considération. Je pense que ces éléments de frustration peuvent expliquer en partie le fait que les démobilisés se rebellent aujourd'hui.
Comment expliquer que ces démobilisés sans armes puissent bloquer l'entrée du Boaké?
Il n'y avait pas de coup de feu, il n'y avait pas d'armes dans la ville. Mais maintenant, est-ce que derrière, ils n'ont pas des armes cachées? Ça, c'est une question que tout le monde se pose. Est-ce qu'ils n'ont pas des soutiens même au sein des soldats qui sont à Boaké? C'est d'autres questions qu'il faut se poser. Sinon, aujourd'hui, il n'y avait pas d'armes, il n'y avait pas de coup de feu, il n'y avait pas d'armes dans la ville.
Que peut faire le gouvernement?
Je pense que le gouvernement doit montrer de la fermeté maintenant. La Côte d'Ivoire elle-même, par la chute des cours du cacao, qui sont passés de 1 000 francs CFA le cours, le prix du kilo, donc un peu plus de 2 $ à 700 francs CFA, donc un peu plus de 1,5 $. La Côte d'Ivoire elle-même n'a plus autant d'argent que les années passées. Et puis, il faut faire des investissements dans l'éducation et dans la santé. Donc, le gouvernement ne veut plus se permettre de brader, d'offrir de l'argent à tous ceux qui tirent une fois dans l'air. Donc, il faut expliquer les choses avec fermeté et s'assurer que les démobilisés qui devaient bénéficier du DDR ont vraiment bénéficié de ça. Et puis, trouver des problèmes à la question du chômage de façon générale à tous les jeunes Ivoiriens, y compris les démobilisés, voire au-delà.
Mais tout ceci n'est pas révélateur d'un malaise au niveau de l'armée?
Si, 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 il y a forcément un malaise parce que ces démobilisés ont forcément des connexions avec des anciens mutins. Et certaines sources même disent que ce sont des anciens mutins qui ne sont pas contents parce qu'ils n'ont pas reçu tout ce que leur a promis le gouvernement qui essaie de manipuler ces démobilisés-là. C'est clair que ça montre un certain malaise, certains problèmes de cohésion dans l'armée ivoirienne aujourd'hui. On remarque depuis le début de l'année entre, d'une part, les soldats issus des forces armées, des forces nouvelles, ont du mal à s'inscrire dans une logique de soldats républicains.
C'était le docteur Arthur Banga, enseignant à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, c'est bien sûr VOA Afrique, 24h sur 24. Sur la libération de 82 jeunes filles enlevées il y a 3 ans à Chibok dans le nord du Nigeria, on revient dessus, le président Muhammadu Buhari les a accueillies hier soir à Abuja, la capitale. Un reportage de Zlatika Hawke présenté par Morgan Guiriek.
Les 82 jeunes filles ont retrouvé la liberté samedi à l'issue de longues négociations qui ont débouché sur un échange contre des détenus membres présumés de Boko Haram. Elles ont d'abord été escortées vers une base militaire de Banki, près de la frontière avec le Cameroun, puis transportées à Abuja après un examen médical. Le président Buhari a retardé un voyage à Londres pour des raisons médicales afin de les accueillir. Au nom de tous les Nigérians, je voudrais partager ma joie avec vous, vos parents, vos proches, vos amis et le gouvernement de l'État de Borno de vous voir enfin libres.
a déclaré le président Bouhari via Facebook. Une des filles avait un bras cassé et une autre était blessée à la jambe. Elles avaient l'air épuisées. Leur vie en captivité a été pleine de souffrances. Elles ont été affamées, maltraitées. Comme nous l'avons déjà vu, certaines de ces filles sont revenues avec des enfants. Et certaines témoignent des violences sexuelles dont elles ont été victimes. Au total, 276 jeunes filles ont été kidnappées en avril 2014 alors qu'elles dormaient dans une école de Chibok dans l'état de Borno. Leurs parents et des militants se sont mobilisés pour faire pression sur le gouvernement afin qu'il augmente les efforts pour les retrouver. En octobre, une vingtaine d'entre elles avaient été libérées. Les 113 jeunes filles qui sont encore en captivité doivent être prises en compte. Il faut que la lutte continue. Aujourd'hui, nous sommes heureux d'en avoir retrouvé 82. Au total, 106 ont été sauvés et nous continuerons à exiger qu'elles soient toutes ramenées à la maison. Environ 15 000 personnes ont été tuées pendant l'insurrection de Boko Haram qui veut créer un califat islamiste dans le nord-est du pays. Plus de 2 millions de personnes ont fui les violences en 7 années de conflit.
Au lendemain de la libération de 82 filles de Chibok qui étaient détenues par le groupe Boko Haram pendant 3 ans, une partie de l'opposition nigériane critique le gouvernement pour avoir procédé à un échange de prisonniers avec la libération de 5 membres de Boko Haram. Pensez-vous que le gouvernement doit libérer des membres de Boko Haram pour obtenir celles de plus de 100 filles encore entre les mains de l'organisation terroriste? Venez en débattre sur À votre avis à 18h GMT. Rendez-vous également sur la page Facebook de VOA Afrique.
En Algérie, l'élection d'Emmanuel Macron a été très bien accueillie. Lors de sa campagne, le candidat du mouvement En Marche, alors en déplacement en Algérie, avait publiquement condamné la colonisation. Emmanuel Macron avait assuré qu'il prendrait des actes forts au sujet de la reconnaissance des massacres de l'Est algérien le 8 mai 1945. Ça tombe bien, nous sommes le 8 mai 2017, journée de commémoration. Pour savoir comment les Algériens ont réagi, Claire Morin-Gibourg a joint notre correspondant Brahim Terkbout.
La presse algérienne a été très positive en apprenant la nouvelle de l'élection d'Emmanuel Macron. Elle en a fait, comme on dit dans le jargon journalistique, ses choux gras, parce que c'est important pour les Algériens. Donc ils ont restitué un peu cette satisfaction des Algériens par rapport à l'élection d'Emmanuel Macron. Voilà. Donc globalement, toute la presse algérienne en a fait état.
Au niveau politique également, quelles ont été les réactions? Le président Bouteflika l'a déjà félicité.
Effectivement, au plan politique, le président de la République l'a déjà félicité. Il a même esquivé un peu ce que seront les relations entre Alger et Paris, évoquant le partenariat d'exception entre les deux pays, en parlant d'ouverture de nouveaux horizons et des promesses d'une mémoire assumée dans toute sa vérité et son intégrité, d'une amitié entre les deux peuples. Vous savez, entre l'Algérie et la France, il y a quand même une communauté très très forte, dépassant les 3 millions. Donc le président Bouteflika, dans son message de félicitations au président, au nouveau président français, il a parlé de la mémoire, des relations apaisées, d'un avenir prometteur, et de cette communauté qui est, pour le président algérien, un ressort humain précieux à honorer et à préserver. Voilà, donc il a effectivement très, très chaleureusement félicité.
Alors il faut dire que Emmanuel Macron n'a pas été un candidat comme les autres puisqu'il s'est prononcé sur les crimes de la colonisation.
Il n'est pas comme les autres effectivement parce qu'il est venu en Algérie là, à en quelque sorte décomplexer la question de la mémoire. Disons clairement que le colonialisme est un crime contre l'humanité. Effectivement, les Algériens attendent ce geste, mais Emmanuel Macron s'est débarrassé du boulet de la mémoire. Vous savez, entre Alger et Paris, toutes les analyses, toutes les démarches ne sont pas torpillées, elles sont souvent polluées du fait qu'elles soient regardées par le prisme de la mémoire. Et donc, lui, ce qu'il annonce comme démarche, c'est que les choses vont aller autrement. C'est-à-dire que sans passion, sans ressentiment, c'est qu'on va voir les dossiers de manière apaisée et sereine. Et c'est ce qui est important. Quand il y a du recul, il y a une vision sereine, une vision apaisée, pas passionnelle. c'est plus intéressant, c'est plus important. Je pense que c'est ce qui importe le plus, aussi bien pour les Algériens que pour les Français.
Et puis nous terminons cette page de magazine en prenant la direction de la République démocratique du Congo où de nouvelles lois ont été prises sur l'exploitation du bois rouge. C'est Narval Mabila qui nous en dit plus.
Il s'est passé 2 ans d'exploitation du bois rouge et 72 heures d'investigation ont suffi pour que le dircap du président de la République, Némé Oulagna, annonce la décision du président Joseph Kabila.
Le président de la République a décidé de mesurer ci-après. À dater de ce jour, toute autorisation d'exploitation forestière, toute autorisation à quelque niveau des coupes de bois, toute autorisation d'exportation de bois, toutes ces autorisations-là sont suspendues. Jusqu'à nouvel ordre. Ceci dit, il n'y a aujourd'hui donc aucun exploitant forestier qui peut se prévaloir d'une quelconque autorisation pour poursuivre la coupe de bois. Il n'y a aucun exploitant qui commercialise le bois ne peut se prévaloir d'aucune autorisation, n'est-ce pas, pour pouvoir exporter ce bois.
C'est une décision qui a bouleversé plus d'une personne impliquée dans l'exploitation illicite du bois rouge. Autorités militaires et civiles, commerçants et chinois, Michel Kaboulo de l'ONG Développement et Environnement du Haut-Katanga fait sa lecture face à cette décision.
De la forêt jusqu'à la ville, même chemin faisant là, vous trouvez une barrière, vous payez cet argent-là, profitez à qui? Bien de venir dans la foulée, non, on ne suce pas tel, on fait tel, on chicote tel. Mais est-ce que vous pouvez aussi nous éclairer de tout ce temps? Parce que ce bois rouge n'a pas commencé en 2017 ou en 2016. C'est depuis l'époque de l'ancien gouverneur Moïse, ce bois-là a été déjà exploité. Il y avait même des Chinois qui vivaient en pleine forêt. Vous trouvez des Chinois qui avaient investi des forêts entières sur Rutukasenga sans document, avec une exploitation industrielle.
Aussitôt annoncé, aussitôt mis en application, les services de sécurité ont commencé la chasse au bois rouge. Voici le témoignage et la réaction de certains louchois, dont Yves Yale et Junior Monga, tous habitants de Lubumbashi.
Juste quand la décision est tombée, nous avions vite constaté qu'il y a tous les services de sécurité qui sont presque en alerte. Constatons que sur les différents services de sécurité, il y a déjà des camions qui sont déjà saisis.
Qui est habilité à arrêter ces camions de bois rouge transportés par les investisseurs chinois, autres. Il y a même des... parce qu'on est dans une confusion totale.
Les décisions prises par le chef de l'État, Joseph Kabila, seront-ils respectées à la lettre? Alors que pour certains, c'est l'ère où le vrai business qui commence. Lubumbashi, Narval Mabila, VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, le top 10 American Music, les nouveautés de la musique américaine. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Moutou, la voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-58-92-40. Je répète, 225-58-92-40. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
C'est la fin de cette édition. À la mise en monde, nous avions Lionel Gaïma, la présentation Tatiana Mosso. Ainsi va le monde. Aujourd'hui, on reste connecté sur Facebook et sur votre site voaafrique.com pour l'actualité 24 heures sur 24. Et puis ne manquez pas, à votre avis, votre magazine avec Abdourahmane Dia qui reviendra aujourd'hui sur la libération des 82 jeunes filles enlevées il y a 3 ans au Nigeria, les jeunes filles de Chibok. Bonne soirée à tous et restez sur VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako, sur 102 FM. Raga FM, Kinshasa. Soleil FM, Conakry. 92.3 FM, Radio Wentanga. Wayeguya, Burkina Faso. Et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui, sur VOA Afrique.